Radio Kapi. Le journal Jocelyne Moussa au Pondé.
Cette personne cachée depuis deux semaines dans la forêt des Djo en Ituri, récupérée hier lors d'une opération aéroportée des casques bleus de la MONUSCO. 8 corps sans vie ont également été retrouvés lors de la même opération. Mise en place hier à Lubumbashi du cadre de concertation genre et élections, un cadre à la disposition des potentielles candidates aux élections en vue d'améliorer leur score au scrutin à venir. Le dossier, la revue de presse et l'actualité sportive constituent le menu de la seconde partie de cette édition. Bonjour à tous. Commençons en Ituri. Une opération aéroportée des casques bleus de la MONUSCO a réussi à récupérer hier soir 7 personnes, dont une femme qui s'était cachée depuis environ 2 semaines dans la forêt des Djo, au bord du lac Albert, en collectivité des Bahema Nord. Ces personnes avaient fui les attaques meurtrières des assaillants présents dans cette région située en territoire de Djougou. Cette révélation a été faite ce vendredi à Bounia par les élus de Djougou sur base des informations du chef de cette entité coutumière. Par la même occasion, indiquent ces élus, les casques bleus de la MONUSCO ont découvert 8 corps sans vie en pleine décomposition dans la brousse. Delvin Waïsala nous en parle.
Les élus de Ndjougou qui se réfèrent au rapport du chef de Bahema Nord de ce matin expliquent que c'est dans l'avant-midi d'hier qu'un hélicoptère de la MONUSCO a décollé d'Elita dans cette collectivité pour atterrir dans la zone où ces personnes s'étaient cachées. Et c'est le chef de groupement Los Andrema qui était dans l'hélicoptère qui a servi de guide sur terrain. Madame Angèle Tabou, élue de Ndjougou, rapporte les propos du chef de Bahema Nord.
Voici ce qu'il m'a communiqué. Il dit qu'il y a la force de MONUSCO sur place à Jean présentement. Ils ont trouvé 16 personnes qui continuaient de se cacher dans la brousse et qui ont découvert plusieurs corps en décomposition avancée.
Certaines sources précisent que les assaillants avaient saccagé les installations de la compagnie Vodacom à Djo et cette compagnie n'a pas encore donné sa version des faits. Bounia, Delvé, Waïsala, Radio Kapi.
Direction province du Kwilu, plusieurs cas d'insécurité et du banditisme sont signalés ces derniers temps à travers la ville de Bandundu, chef-lieu de la province. Cette situation inquiète la société civile, force vive à Bandundu, qui déplore le fait que ces actes criminels sont perpétrés par un groupe de hors-la-loi sans être inquiétés par la police et autres forces de sécurité. Fabien Kamizi.
Selon plusieurs sources sur place à Bandunduville, il y a une semaine, cette maison a été incendiée dans les quartiers Malebo, commune de Mayoyo, par des personnes non identifiées. Des dégâts matériels occasionnés sont importants. Au dire des témoins et des victimes, ces incendies seraient bien planifiés selon les modes opératoires de leurs auteurs. Ces derniers ont commis leur forfait dans un rayon d'un kilomètre carré et seulement les maisons en paille étaient visées. Une situation qui inquiète la société civile et force vive à Bandunduville. Pour son coordonnateur Prosper Ndjoré, l'État doit sécuriser tout le monde dans la ville, même ceux qui n'ont pas de moyens pour construire des maisons en tôle. Il signale également des cas de banditisme généralisé, même en pleine journée à Bandunduville, où des jeunes gens délinquants appelés Kuluna ravissent des téléphones aux passants. Toujours selon lui, la plupart des personnes interpellées par la police sont des innocents. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, Joachim Koumarer, des dispositions sont déjà prises pour identifier et arrêter les principaux auteurs de ces actes criminels. Kikwit Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Dans la province de la Lomami, Albert Kamanda Mutamba Lumpungu, dit Yakaumbu 4, grand chef de Basongé, vient d'être condamné à 31 mois de prison. Le verdict de la cour d'appel de Mbujimayi est tombé hier, tard dans la soirée. Il est retenu à l'endroit du chef coutumier et député provincial copté de Lomami, la rébellion, la détention illégale d'armes ainsi que les coups et blessures simples. Le collectif de la défense entend aller en appel à la Cour suprême des justices. Maître Eric Kapwadi, l'un des avocats de ce chef coutumier, au micro de Chris Mukand.
Nous sommes déçus par la décision ou l'arrêt de la Cour parce que les éléments constitutifs de toutes les infractions n'étaient pas établies en fait comme en droit. Mais malheureusement, et contre toute attente, la Cour vient de condamner notre client pour coups et blessures simples, au moment où il n'y avait même pas une réquisition à médecin dans les dossiers, et pour détention illégale d'armes de fabrication indigène. Comme il y a un concours matériel d'infraction, ils sont allés jusqu'à 31 mois. et il a été même conduit à la prison centrale de Mbujimayi. Nous, nous pensions que c'est une condamnation purement politique, parce que du point de vue du droit, tous les éléments constitutifs pour arriver à le faire condamner n'étaient pas établis en fait comme un droit. Le collectif des avocats entend interjeter appel dans le délai, espérant que la justice sera rendue devant la Cour suprême de justice.
Pour rappel, le grand chef de Basongé a été arrêté à Cabinda lundi et transféré en Mbujimayi. Un procès en flagrance a été ouvert à son encontre mardi pour rébellion, détention illégale d'armes et recel des malfaiteurs. Justice encore, un colonel des FARDC accusé de vol simple comparé devant la cour militaire garnison de Kinshasa Matete contre un civil, François Abel, est prévenu notamment d'occupation illégale de la parcelle de son accusateur, escroquerie, trafic d'influence et port illégal des grades. Le plaignant affirme avoir perdu tous ses biens et craint maintenant pour sa vie. Tchefu Kibaya attend depuis 3 ans de recouvrer ses droits à bafouer. Une descente est prévue dans la parcelle Kérélé, dans la commune de Matete. On l'écoute.
Ce monsieur, ce colonel, s'est prétendu d'abord être général et par la suite, après son identification auprès du général Molicho, c'est alors qu'on trouvera qu'il n'était pas général comme il prétendait se faire passer. Et ici, il est poursuivi pour plus de 10 infractions, notamment la destruction méchante, l'extorsion et plusieurs autres préventions.
Il parle d'une escroquerie de 5 000 $. Qui a escroqué qui?
Je ne connais pas de quelle escroquerie parle-t-il, parce que ici, celui qui est poursuivi, c'est pas moi qui suis poursuivi. En venant ici, j'attends que la cour militaire puisse me rendre justice, puisse récupérer tous mes biens qui sont arrachés par ces messieurs, notamment ma maison que j'ai construite, ma voiture, tout l'argent qu'il avait trouvé dans la maison.
Accusé, le colonel François Bell réfute les faits et charge son accusateur d'escroquerie. Il menace de porter plainte contre lui pour imputation calomnieuse et dommageable. On l'écoute aussi.
Vous m'avez sollicité, moi, je suis entré dans la parcelle. Sa femme est légitime.
Sa femme est venue proposer 5 000 $ pour vendre la parcelle. Le propriétaire, c'est qu'il m'a demandé d'habiter dans la parcelle parce que lui a fait 8 ans sans partage. Il crainte de perdre sa parcelle. Il m'a demandé d'y habiter sans son petit d'habiter. C'est la base de la carte. Il est allé m'accuser de tout d'occupation illégale. Après, je vais l'accuser pour réputation dommageable.
Yende mutu aligaki ateka lupango nde ngana boyaki nde conflit sikoyo afundi ngana makambo nyonso o occupation illégale tant makambo zosi ngana zofunda ye il va me dédommager, il va payer cher.
Les deux parties se sont toutes exprimées au micro de Jeff Ngoy. Je l'ai dit, son titre, installation hier jeudi à Lubumbashi du cadre de concertation dénommé Genre et élections. C'est un cadre mis à la disposition des potentiels candidates aux prochaines élections pour le partage d'expériences en vue d'améliorer le score des candidates femmes au scrutin à venir. C'est une initiative prise au cours d'un atelier de formation organisé par la CENI en collaboration avec la MONUSCO, le PNUD et ONU Femmes. À l'issue de cette formation, plusieurs recommandations ont été faites, notamment à la CENI. On écoute Rose Chakwiza, l'une des participantes, au micro de Madeleine Waila.
À la CENI, d'appuyer et de redynamiser le cadre de concertation du genre et élections, ONU Femmes, la MONUSCO, le PNUD, nous recommandons d'assurer l'accompagnement des femmes candidates durant le processus électoral, de prendre les mesures de sécurité de la femme candidate pendant la période de la campagne électorale jusqu'au jour des scrutins. Au gouvernement national et parlement, de revoir le seuil légal de représentativité ainsi que la caution à payer pour les dépôts de candidatures féminines. Aux femmes, de mettre en application toutes ces stratégies reçues en ce lieu et de restituer le plus tôt possible cet atelier à la base.
Politique encore, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, d'Étienne Tshisekedi, a dit ne pas être concerné par la crise de dédoublement des partis politiques. Son porte-parole, Augustin Kabuya, l'a signifié hier à Radio Okapi au siège de ce parti à Kinshasa. Il réagissait à la déclaration du président du SANSA, Joseph Olengankoy, qui a cité l'UDPS parmi les partis dédoublés dont les cas avaient été rapportés au SANSA et qui seront examinés incessamment. Augustin Kabuya, au micro d'Honoré Misengakala.
Nous ne sommes pas concernés. D'abord, les gens doivent retenir une chose. M. Tshibala se présente comme étant le président de l'UDPS tout court. Mais nous, nous sommes de l'UDPS Tshisekedi, enregistrés au ministère de l'Intérieur au même titre que l'UDPS Kibasa. Si les gens sont corrects dans leur logique, je pense qu'ils doivent interdire aussi l'UDPS Kibasa. C'est une distraction. Et là, je lance un appel à nos amis de la majorité de faire la part des choses. Le monde entier nous regarde. Comment est-ce qu'on peut nous respecter si nous nous comportons de cette manière-là? Ce n'est pas du tout responsable. Ça ternit l'image de la République.
Rendons-nous au Maniema, en territoire de Kailo, où ces derniers temps, plusieurs pluies torrentielles ont laissé d'innombrables dégâts dans certains villages. Le cas de village Loubangwana, Loubelengue et Pengue, à 26 km de Kindu. On a dénombré plus de 110 maisons d'habitation et quelques édifices publics, tels que les écoles et les églises. Le député Corneille Bouchiri Makola, élu de la circonscription électorale de Kailo, lance un cri d'alarme aux autorités du gouvernement, tant provincial que central, ainsi qu'aux humanitaires et à toute personne de bonne volonté de bien vouloir penser à venir en aide à ses habitants dépourvus de biens à cause de ces catastrophes naturelles. Corneille Bouchiri Makola, joint au téléphone par Mathieu Ilunga.
Vous savez que jusqu'à l'heure qu'il est, à Loubangwana, vers le fond de Loubelengue, il y a 28 maisons qui se sont écroulées, mais vers 26 km sur la route Kibombo, il y en a déjà 85 maisons qui sont écroulées. C'est pour cela que la population nous contacte pour demander à ce que nous puissions canaliser leur cri d'alarme par rapport à ces désastres. Vous savez que la population est protégée par l'État. Et les humanitaires sont là pour les catastrophes naturelles de ce genre. Les maisons de nos habitants de ces coins-là sont ce qu'elles sont. Alors c'est comme ça que chaque fois qu'il y a des pluies, les eaux stagnent et ça entame les fondations de ces maisons qui sont en pisé ou en briques à d'aube et les maisons s'écroulent. Donc je sollicite l'implication des médias afin que ce message, cette information soit relayée auprès de tous ceux qui peuvent de près ou de loin venir en aide à cette pauvre population dont les gens commencent à passer la nuit à la belle étoile. Donc, ceux qui peuvent les aider, puissent penser à comment ils peuvent reconstruire ces maisons et comment ils peuvent trouver l'abri pendant qu'ils seront en train de construire ces maisons. Ils peuvent aussi être initiés sur la canalisation de ces eaux parce que souvent, c'est le problème de canalisation la cause majeure de ces dégâts.
À Kalemi, dans la province du Tanganyika, les acteurs humanitaires intervenant dans le domaine de l'eau et assainissement se sont mobilisés dans la campagne de sensibilisation. Objectif, emmener la communauté à l'utilisation de l'eau potable. L'occasion pour le chef de la division de l'enseignement de lancer un appel à alimenter l'eau potable dans les écoles. La mobilisation a reçu un appui financier de l'UNICEF. François-Xavier Mibé, reportage.
L'appel du chef de la division provinciale à l'enseignement pour l'alimentation de l'eau potable dans des écoles, est intervenu au point de chute de la caravane motorisée. Une caravane partie du siège du ministère provincial de l'Intérieur, sillonnant l'artère principale Lumumba, atteignant le quartier Sitira, pour aboutir à l'école primaire Réema sur la rive droite de la Lukuga. Le ministre provincial de la Santé a présidé l'activité qui a connu une forte mobilisation des acteurs intervenant dans les domaines de l'eau et assainissement. Le ministre a visité dans un premier temps le réseau de la Régie des eaux qui fournit l'eau potable à la ville. Une société bien engagée dans la lutte contre le choléra dans la zone. Une maladie qui affecte 8 des 11 zones de santé organisées au Tanganyika. Cyril Kipu-Awel Mukalai n'a pas manqué non plus de réagir à l'appel du chef de la division provinciale de l'enseignement.
Nous avons suivi avec intérêt Madame le Prophète qui a parlé de manque de robinet dans nos différentes écoles. Nous devons travailler et avec les responsables des écoles et avec la Régie des eaux afin que toutes les écoles de notre province aient accès à l'eau et aux toilettes hygiéniques.
Kalemi, François Diabemide. Radio Capi.
À Kisangani, le ministère provincial des Mines s'engage à assainir le secteur minier et artisanal dans la province de la Tchopo. Un atelier relatif a été organisé mercredi avec tous les acteurs intéressés. Pourquoi assainir ces secteurs? Les explications avec vous, Dorcas Kankou.
L'organisateur estime que cette séance de travail augure une série de mécanismes d'assainissement du secteur minier par des mesures qui seront courageusement prises à l'issue de ces assises. Ces mesures vont permettre une forte performance dans la mobilisation et la maximisation de recettes de la province. Cyprien Eribaraka, ministre provincial de Mines, explique que tout est parti d'un constat malheureux à l'issue d'une mission récente sur terrain.
J'ai constaté quelques faits malheureux, ce qui a fait assez que nous puissions appeler tous les intervenants dans le secteur de l'administration des mines, aussi de pouvoir procéder, si possible, à la permutation des agents des mines. L'administration minière au niveau de la province tâtonne dans ses responsabilités. Et c'est ce qui est grave.
Les innovations qu'apporte la nouvelle loi modifiant et complétant le code minier a également été présentée à l'assistance par le directeur du cabinet du ministre. Ce texte exige notamment la signature d'un cahier des charges entre les entreprises minières et la communauté. En outre, les artisanaux doivent être affiliés à une coopérative minière. Certaines prérogatives du gouverneur de province et de chef de division sont remises maintenant au ministre provincial, a souligné le directeur du cabinet du ministre. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Une délégation de l'Union européenne est au Zimbabwe cette semaine. C'est à l'invitation du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Il s'agit d'une mission pour évaluer le climat préélectoral afin de décider d'une éventuelle présence d'observateurs européens lors du vote. Des élections sont prévues en juillet. Ce seront les premières sans l'ex-président Robert Mugabe. Pékin déroule le tapis rouge pour Paul Biya. Pendant 3 jours, le président camerounais effectue une visite d'État en Chine avec à la clé plusieurs accords qui ont déjà été signés hier soir à l'issue de sa rencontre avec le numéro 1 chinois. Xi Jinping a accueilli son homologue avec tout le faste dont la Chine est capable.